Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui aux hommes anarchistes face au féminisme et plus généralement à la question du sexisme dans les milieux libertaires. Et le titre de l'émission du coup sera programmatique par rapport à ces problèmes de sexisme qui existent dans la pensée et dans les milieux libertaires jusqu'à aujourd'hui et historiquement. Le titre de l'émission serait du coup « Pour un anarchisme pro-féministe ». Alors pour justement proposer une réflexion critique par rapport au sexisme dans la pensée et les milieux libertaires, nous sommes avec Francis Dupuy-Déry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, et auteur notamment sur la question de l'anarchisme, de « L'anarchie expliquée à mon père », publié aux éditions Luxe en 2014, et de « Les Black Blocs », publié aux éditions Luxe en 2016. Et il a également publié des ouvrages sur la question du sexisme plus généralement, et notamment « La crise de la masculinité », publié aux éditions Remue Ménage en 2017, sur laquelle on va consacrer une autre émission, et également de « Le mouvement masculiniste au Québec, l'antiféminisme démasqué », publié aux éditions Remue Ménage en 2015. Et évidemment, il a écrit de nombreux autres ouvrages sur notamment la thématique de la démocratie, de la répression des mouvements sociaux, sur lesquels on renvoie à la page de l'émission. Donc bonjour Francis.
Bonjour.
Alors, la base un peu de cette émission, c'est l'article que tu as publié justement, « Hommes anarchistes face au féminisme », publié à Réfraction, la revue anarchiste de réflexion critique. Et dedans, tu partais effectivement d'un paradoxe, c'est-à-dire du fait que à la fois l'anarchisme est censé être une critique et une négation de toutes les formes de pouvoir, de toutes les formes de domination, et pour autant, aujourd'hui, dans les milieux libertaires et même dans la pensée libertaire, on retrouve encore un sexisme prégnant, que ce soit dans les comportements ou dans les discours. Et c'est en réalité le produit d'un héritage historique beaucoup plus lointain, qui remonte à au moins Proudhon. Et du coup, c'est un petit peu comme ça qu'on divisera l'émission d'aujourd'hui. D'abord, parler des problèmes, disons, de ce que tu as appelé l'anarcho-sexisme contemporain dans les milieux libertaires et dans la pensée libertaire. Et puis après, dans une deuxième partie, on reviendra un peu sur les origines historiques de tout ça. Donc voilà, est-ce que tu peux aujourd'hui nous dresser un peu un bilan de qu'est-ce que c'est que l'anarcho-sexisme aujourd'hui, à la fois dans les discours et dans les pratiques?
Oui, alors c'est un concept que j'ai lancé comme ça pour essayer d'expliquer que des hommes anarchistes, donc, semblent en contradiction avec les principes fondamentaux de non-domination ou de anti-autoritaire, dans la mesure où ils ont soit des pensées ou même des pratiques, et des fois c'est même très grave, là, ça, il y a évidemment des cas d'agression, c'est récurrent dans les milieux anarchistes, toutes tendances confondues par ailleurs, que ce soit en France ou au Québec ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc là, on parle de harcèlement et d'agression sexuelle, donc c'est pas juste un débat d'idées, là, c'est vraiment des combats, des problèmes très graves. Donc, comment on peut expliquer cette contradiction apparente? J'ai essayé de suggérer plusieurs pistes d'explication. La première, peut-être la plus simple et la moins originale, c'est de rappeler que simplement les hommes, et principalement les hommes hétérosexuels, même s'ils sont anarchistes, même s'ils se disent anarchistes, ont été socialisés souvent comme des hommes, et comme des hommes hétérosexuels, dans leur famille, par leur père, PPE, accent grave, RE et PAIRS, c'est-à-dire entre jeunes quand on est enfant et quand on grandit dans l'adolescence, peut-être plus spécifiquement, et par la socialisation, par les médias, la culture, etc., à adopter certaines attitudes, certaines postures, certaines pratiques liées à ce qu'on considère être notre identité masculine. Et donc ça, on a beau dire qu'on est anarchiste, évidemment, on n'est pas complètement étranger à notre propre culture, appelons-la la culture nationale. C'est vrai, évidemment, pour d'autres enjeux par ailleurs, pas seulement sur la question des identités sexuelles. On pourrait dire, évidemment, d'une certaine manière, la même chose des femmes et des féministes et des anarcho-féministes, elles-mêmes, j'imagine, il faudrait qu'elles viennent en parler elles-mêmes, là, mais j'imagine qu'elles-mêmes, des fois, ont de la difficulté à se désocialiser, disons, d'une socialisation féminine qui peut être parfois pénible pour elles, et en contradiction avec leurs principes d'émancipation aussi.
Donc en fait, il y a, malgré effectivement des idéaux anarchistes de négation des pouvoirs dans son attitude individuelle, il y a une reconduction un petit peu d'une socialisation qui forme les hommes à être des dominants, effectivement des dominants qui considèrent les femmes comme étant, au moins dans la pratique, peut-être moins dans les idées explicitement aujourd'hui, mais dans la pratique, comme étant inférieures, devant se soumettre à leurs désirs, etc., etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que, effectivement, il y a des problèmes récurrents dans tous les milieux militants par ailleurs, mais notamment dans le milieu anarchiste, de problèmes d'agression sexuelle, de viol, et puis après aussi, bon, voilà, un sexisme un peu ambiant, etc., dont on parlera peut-être plus quand on parlera justement du fait que, enfin, il y a presque deux parts dans cet anarcho-sexisme. Et d'une part, une part de, finalement, de reconduction de la domination masculine, disons, enfin, de la domination des hommes sur les femmes. Et puis après, aussi, quelque chose qui est un petit peu différent, mais évidemment qui s'y rattache, c'est-à-dire une espèce de valorisation de la virilité,
exactement,
etc.
Tout à fait. Et ça, donc, du coup, là, on pourrait dire qu'il y a vraiment une fusion entre une certaine conception de l'anarchisme et de la tradition anarchiste et de qu'est-ce qu'un anarchiste et qu'est-ce qu'un vrai anarchiste pur et dur et vraiment radical, et une conception de la virilité combattante, en lutte, musclée, autonome, etc. Et donc là, c'est pas simplement l'explication première de la socialisation, nous sommes tous socialisés dans nos sociétés où nous avons grandi. Un problème qui était déjà d'ailleurs soulevé à la fin du 9e siècle par des femmes anarchistes qui étaient allées dans les milieux libres, qui disaient ben, les camarades sont bien sympathiques là, de parler d'amour libre et de tout ça, mais en fait, ils ont été socialisés comme des hommes et en fait, ils sont jaloux, ils se battent comme des coqs et il y a beaucoup de milieux libres en fait, qui ont explosé sur des enjeux de jalousie, des fois même à coups de coups sur la gueule, quoi, parce que même ces anarchistes qui se disaient pour l'amour libre et contre la jalousie et contre la possession sexuelle et amoureuse, étaient incapables de se désocialiser. Les féministes, leurs camarades féministes femmes, l'écrivaient noir sur blanc, c'est « nous sommes encore socialisés comme des bons ». Donc ça, on était à la fin du 19e siècle. Mais après ça, c'est effectivement, il y a ça, et bon, je l'ai vu aussi évidemment très bien sur les Black Blocs où les gens qui ont participé à des manifs où, évidemment, il y a des tendances plus marquées par ce virilisme. On peut penser, par exemple, à l'antifascisme, le syndicalisme révolutionnaire, toute la mythique de la barricade, de la manifestation, de la culture ouvriériste. Ben, effectivement, elle est très virile. Et là, donc, ça aussi, c'est prégnant dans l'imaginaire et dans l'auto-identification des anarchistes. C'est souvent, quand on pense à un anarchiste, on pense à un homme combattant, un homme viril. Donc, ça aussi, ça vient renforcer cette distinction entre les sexes dans le milieu anarchiste, avec évidemment des divisions sexuelles du travail aussi militantes dans le milieu anarchiste, c'est-à-dire les camarades hommes, ils font certaines choses dans le milieu anarchiste qui sont plus valorisées, et les femmes sont reléguées souvent à des tâches subalternes, ou en tout cas dites subalternes ou moins valorisées.
Oui, et c'est vrai qu'effectivement, pour parler par exemple de l'exemple de la radio, c'est vrai qu'effectivement, et là, pour le coup, c'est vraiment un héritage de la socialisation différentielle entre les hommes et les femmes, une socialisation genrée et inégalitaire, que, effectivement, dans la présente émission, c'est plus compliqué de faire venir des intervenantes que des intervenants, parce qu'on est dans une société où la parole des hommes est valorisée a priori, automatiquement, alors que la parole des femmes est automatiquement dévalorisée. Ce qui fait que, pour qu'une militante viennent s'exprimer à la radio. Ça va être plus compliqué, il va falloir qu'elles se sentent beaucoup plus prêtes à le faire que si c'est un mec qui va le faire plus facilement. Et le problème, c'est que là, pour le coup, on va y arriver. Le problème, c'est que ce n'est pas juste un héritage de la socialisation patriarcale, je veux dire, entre guillemets, avant l'insertion dans des milieux anarchistes qui, eux, seraient d'une certaine façon neutres par rapport au genre ou qui ne feraient qu'à la limite que reconduire, avant d'effacer progressivement. Mais il y a aussi, il suffit de regarder le temps de parole dans une assemblée générale militante, anarchiste ou non, des hommes et des femmes. On voit très clairement qu'il y a un problème. On voit très clairement, et ça a été montré par exemple dans Questions féministes, que la question des interruptions, les hommes dans les milieux anarchistes compris ont tendance à interrompre beaucoup plus les femmes, et ils ont tendance à plus garder la parole, etc. etc. Et c'est là où, peut-être ça serait un premier point très important, c'est que on a beau dire qu'on est anarchiste et qu'on lutte contre l'autoritarisme, contre la domination, contre les pouvoirs, en réalité, trop souvent, cette posture, cette identité d'une certaine manière anarchiste va de pair avec une croyance que c'est nous les dominés, entre guillemets, et qu'on se rebelle contre la figure du père, contre l'État, contre le capital, etc. etc. Alors qu'en fait, sur certains plans, on est nous-mêmes des dominants, structurellement, et du coup, ça veut dire que la personnalité d'un anarchiste, elle ne doit pas seulement être déconstruite dans le sens de se rendre insoumis, disons, à l'autorité, à l'État, au capital, mais aussi un travail sur soi pour se déconstruire, entre guillemets, en tant que dominant. Et là-dessus, je pense que c'est très intéressant de lire, par exemple, tu le mentionnes un petit peu dans tes notes, mais de lire quelqu'un comme Léo Thiers Vidal, qui a écrit un ouvrage dont on parlera dans une émission, parce que c'est un ouvrage un peu incontournable, de l'ennemi principal aux ennemis principaux, qui essaie de réfléchir justement sur, de manière critique sur la masculinité et sur le fait que cette masculinité, eh bien, elle a été construite historiquement de pair avec un système de domination et qu'il n'y a pas particulièrement à être fier de. Enfin, il n'y a pas de fierté masculine à avoir dans le sens où cette catégorie culturelle et sociale de masculinité, qui n'a rien à voir avec la biologie par ailleurs, elle est liée à un système de domination et que, évidemment, il faut la déconstruire. C'est pour ça que c'est intéressant de lire effectivement ce livre de Léo Thiers Vidal ou un ouvrage notamment de John Stoltenberg qui s'appelle Refuser d'être un homme. Ce sont effectivement, ça peut faire peur au début, on se dit oh là là, refuser d'être un homme, forcément, on est socialisé en tant qu'homme, donc du coup, ça fait peur. Mais en réalité, bon, c'est comme quand on est socialisé en tant que future force de travail obéissante au capital. Bien sûr que remettre en cause un système de domination, ça implique toujours de se remettre en cause soi-même. Et c'est encore plus dur peut-être quand on est dominant. Mais il faut le faire pour autant, sinon, je pense qu'on peut pas se dire anarchiste si on a peur de se remettre en cause. Et d'autant plus, on ne peut pas se dire anarchiste si on a peur de remettre en cause les systèmes de domination où on est nous-mêmes dominants.
Ça, c'est un problème grave, parce que moi, j'ai été témoin à plusieurs reprises, en fait, que ce soit en France ou au Québec, de ce phénomène d'hommes anarchistes totalement réfractaires à l'idée qu'ils puissent être privilégiés. Et c'est comme un crime de lèse-majesté de les identifier comme des hommes privilégiés. Ils vont avoir toute une série de tactiques pour se disculper de leur statut de privilégié d'homme. C'est soit ils évitent la critique en identifiant en fait leur statut de classe, par exemple de salarié, où ils vont dire ben moi j'ai des petits boulots, j'ai jamais eu un bon salaire, etc. Je suis un exploité, je suis avec les prolos, etc. Et donc on ne peut pas dire que je suis privilégié, c'est une insulte, ça insulte mon origine familiale, ça insulte mon statut de classe actuel. Et donc non, je ne suis pas un privilégié. Et de toute façon, les féministes qui me disent ça, c'est des petites bourgeoises, etc. Bon bref, j'ai entendu ça à plusieurs reprises et ils ont l'air réellement insultés, mais évidemment, le résultat de ça, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à avoir une réflexion autocritique sur leurs propres attitudes. C'est vraiment un système de blocage et même de contre-attaque dans ce cas-là. Et puis après ça, il y a le. Donc, ça serait, disons, une contre-attaque sur une base matérialiste, c'est-à-dire qu'on fait jouer la classe sociale contre la classe de sexe, quoi. Et puis, après ça, il y a le blocage, là, du coup, qui est purement idéaliste, qui n'est pas du tout une analyse matérialiste, qui est de dire, ben, si moi je dis que je suis anarchiste, donc je suis contre les dominations, donc je ne peux pas être dominant. C'est un peu comme la personne qui dit, une personne blanche qui dit, ben moi je suis antiraciste, donc on va pas commencer à me faire chier que j'ai des privilèges blancs et que je tire profit de la couleur de ma peau, etc. Puisque je dis que je suis antiraciste, je vais aux manifs antiracistes. C'est un peu comme dire, j'ai un ami noir, bon, et ils arrivent pas à comprendre, ou en tout cas ils veulent pas comprendre très certainement que ils peuvent avoir des propos sexistes, ou donc il y a un double joker, disons, pour éviter de réfléchir à leur comportement ou à leur attitude ou à leur violence sexiste. C'est, j'ai une identité de classe exploitée ou défavorisée, donc je ne peux pas être considéré comme un privilégié, ça serait une insulte à mon expérience de prolo, par exemple, ou je dis que je suis anarchiste. Et les anarchistes, effectivement, détestent être associés à des dominants, puisque, en fait, c'est vraiment le fondement, le cœur même de l'idéologie, de l'identité anarchiste. Et puis après ça, il y a, là c'est plutôt une question de courant anarchiste, il y a évidemment tous les anarchistes qui sont très près du marxisme et qui considèrent évidemment que l'ennemi principal, c'est le capital, la lutte principale, c'est le capitalisme, c'est le patronat, c'est la bourgeoisie, etc., et que tout doit être pensé à travers ce prisme. Et là, du coup, il y a différentes façons de dénigrer le féminisme, mais très certainement, on peut l'identifier à une lutte identitaire ou communautaire, en tout cas secondaire, et même libérale, en fait. Et ça, dans la tradition anarchiste, ben, on a ça déjà à la fin du 19e siècle. Même chez les Mujeres Libres en Espagne, elles hésitaient beaucoup à se dire féministes, et généralement, elles ne se disaient pas féministes parce qu'elles identifiaient le féminisme à un mouvement bourgeois. Évidemment, pour les personnes qui connaissent l'histoire du mouvement féministe, on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que dès le 19e siècle, oui, il y avait des féministes bourgeoises, mais il y avait des féministes socialistes, il y avait des féministes révolutionnaires, il y avait toute une galaxie de tendances chez les féministes. Mais chez les anarchistes, il y a cette tendance, évidemment, très forte chez les anarchistes communistes ou ouvriéristes ou syndicalistes révolutionnaires, de dire c'est le capitaliste qui est l'ennemi principal. Et donc, du coup, le féministe, c'est toujours quelque chose d'un peu suspect, soit d'un point de vue intellectuel, il y a des choses qu'elles ne comprennent pas, soit d'un point de vue de la mobilisation, on connaît la réplique, c'est elle divise la lutte, elle nous entraîne dans des luttes secondaires, et puis en plus elle mène la lutte à l'intérieur même du mouvement anarchiste, donc c'est vraiment une nuisance, quoi. Et grosso modo, ce sont des libérales. Et on va pouvoir utiliser des arguments du type, la preuve d'ailleurs, c'est que l'Union européenne, par exemple, a des politiques anti-discrimination, ou le Macron peut être contre les discriminations et pour la parité entre les sexes. Donc on voit bien que le féminisme, c'est quelque chose de libéral et que c'est pas quelque chose de radical, etc. Donc on va utiliser des arguments de ce type-là.
Qui sont en plus des arguments qui sont repris également par l'extrême droite, pour le coup. C'est quand même...
Tout le monde peut s'amuser avec ce type d'arguments. Et un de ses avantages, c'est qu'une fois qu'on a dit évidemment que le féminisme c'est quelque chose de libéral ou de bourgeois, ben là, on sauve beaucoup de temps parce qu'on n'a plus du tout besoin de s'y intéresser, on n'a plus besoin de lire, on n'a plus besoin de réfléchir à ça, on n'a plus besoin de s'en préoccuper parce qu'on vient de le balayer du revers de la main, alors que, évidemment, des camarades qui sont inspirés des féministes matérialistes comme Christine Delphi en France ou Catherine McKinnon aux États-Unis avec une autre approche, mais quand même inspirés du marxisme. Les deux sont inspirés du marxisme. Colette Guillaumin ont travaillé extrêmement fort pour démontrer qu'en fait, mais non, il y a possibilité d'avoir une analyse matérialiste des rapports sociaux de sexe, et les rapports sociaux de sexe ne sont pas une question d'identité biologique ou anatomique ou de nos organes génitaux, je ne sais quoi, mais c'est des rapports sociaux, c'est-à-dire que ça implique des rapports de pouvoir, des rapports de domination, des rapports d'oppression, des rapports d'exploitation et d'appropriation des ressources et du travail des autres, et des rapports d'exclusion aussi. Et dans le rapport du travail, si on a simplement une analyse anticapitaliste, il y a tellement de travail qu'on ne voit pas, et beaucoup de travail qui sont faits par des femmes pour nous en tant qu'hommes, qu'on ne voit pas parce que c'est du travail gratuit. On dit, ah ben tiens, il n'y a pas de plus-value, donc il n'y a pas d'exploitation. Alors que clairement, il y a du surtravail parce que toutes ces femmes qui travaillent pour nous, tout le temps, toutes les heures et les journées, les semaines de travail qu'elles mettent pour nous, c'est exactement la même logique que le surtravail du prolo qui travaille plus qu'il ne devrait travailler parce qu'en fait, il travaille aussi pour son patron. C'est exactement la même logique. Et d'ailleurs, c'est tellement la même logique que quand ce travail-là, par exemple, préparer des repas ou faire le ménage, etc., quand ce travail-là, il est salarié, c'est du travail. Mais quand on le fait pour nous gratuitement, on pense que ce n'est plus du travail et que ça disparaît. Donc, il y a vraiment comme un problème d'analyse et de conceptualisation, mais qui sert à certains anarchistes à discarter complètement la question du féminisme.
Oui, c'est là que effectivement ce qu'a écrit Christine Delphi pour le coup est très intéressant. puisque effectivement elle montre que effectivement la seule forme d'exploitation, c'est pas seulement l'exploitation de classe au sens classique, soit une exploitation capitaliste ou une exploitation féodale, etc., etc., mais que il y a bien une forme d'exploitation patriarcale qui est à prendre en compte. Et d'un point de vue très matériel, si à mon avis on regarde, bon là on parle des milieux anarchistes, mais on peut parler des milieux militants en général, la répartition des tâches ménagères, enfin le problème du consentement, si on prend tout un tas d'indicateurs de relations réellement égalitaires entre les hommes et les femmes, entre tous les individus, je pense qu'effectivement, c'est pas sûr que on arrive sur un résultat fabuleux, quoi. Et là, on voit qu'il y a que les hommes anarchistes pensent pouvoir justement s'exempter de cette critique générale en disant mais nous on est des prolos le féminisme c'est quelque chose de libéral et tout ça. Mais c'est précisément parce que la domination masculine, elle est transversale à l'ensemble des milieux, à l'ensemble des idéologies, qu'on soit libéral, anarchiste, stalinien, peu importe, qu'on soit bourgeois, petit bourgeois, prolo, c'est précisément parce qu'elle est transversale que, oui, Macron, il va la formuler d'une certaine manière, et puis l'Union européenne d'une autre manière, et puis, les anarcha-féministes aussi, les féministes matérialistes aussi, et les camarades féministes du groupe dans lequel on est aussi, et même en dehors des milieux anarchistes, tout ça c'est valable pour tous les milieux militants, et même si on n'est pas militant, c'est valable. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme si on disait qu'on n'était pas antifasciste parce que l'Union européenne était antifasciste. Oui, l'Union européenne est antifasciste, c'est vrai, ils ont une idéologie antifasciste, la République d'Allemagne est ultra antifasciste, ils font la chasse aux néo-nazis, etc.
C'est dans la Constitution.
C'est dans la Constitution. Est-ce qu'on va dire pour autant, on est pour les fascistes ou, il y a effectivement, c'est intéressant les arguments que tu as dit, puisque finalement ces arguments, on peut les prendre au sérieux. Et là, effectivement, on peut prendre un peu de temps pour les démonter, mais globalement, ce sont simplement des rationalisations intellectuelles d'une position de domination qui ne veut pas s'avouer en tant que telle. Et en soi, c'est normal, c'est dur de s'avouer en tant que, qu'on est dominant, qu'on bénéficie de privilèges et tout ça. C'est dur de se dire, alors qu'on trime à l'usine, etc., etc., que, en fait, on est dominant. Bah oui, mais peut-être qu'en dehors de l'usine, on est effectivement dominant, on prend la parole tout le temps dans les assemblées générales ou dans les conversations qu'on a au quotidien. On est dominant parce qu'on fait 20% des tâches ménagères et qu'on laisse 80% des tâches ménagères à sa compagne. On est dominant parce que on peut exercer des formes de pression psychologique pour avoir des relations sexuelles. Et le fait qu'on se proclame anarchiste, par rapport à ça, ne veut rien dire. Et c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, de réhabiliter, justement, une analyse matérialiste. C'est, peu importe les affirmations identitaires de « nous, on est ci, nous, on est ça ». Et c'est pour ça que mettre des chartes antisexistes dans les milieux libertaires ou dans d'autres milieux, afficher des principes antisexistes, c'est bien gentil, mais il faut les matérialiser, quoi. Mais pour les matérialiser, il faut un vrai travail de réflexion là-dessus. Ça peut passer par effectivement lire des livres effectivement de déconstruction de l'identité de dominant, parce que la déconstruction masculine, c'est pas un truc qu'on pourrait faire parce qu'on a du temps, parce qu'on est un bobo privilégié et tout ça, et qu'on n'a rien d'autre à faire, du coup on se déconstruit et tout. Quand on se prétend anarchiste et qu'on lutte contre toutes les formes de domination, c'est un travail qu'il faut faire, sinon on reste un dominant. Et se prétendre anarchiste quand on est un dominant, c'est quand même très problématique. Donc il y a vraiment un vrai travail de remise en cause, de déconstruction intellectuelle, de discussion aussi avec des camarades féministes. Il faut s'intéresser aussi à des brochures anarcha-féministes qui ont été écrites depuis... des livres qui ont été écrits depuis 150 ans, il y en a. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Il y en a un paquet, il faudrait peut-être les lire. Parce que, effectivement, ça peut être une autre manière de déconstruire son identité de dominance et d'arriver à comprendre ce que c'est, justement, que cette situation de domination qui est vécue par les femmes. Et donc, ça peut passer par lire des féministes matérialistes, lire des témoignages, etc. etc. Ce qui est assez normal, puisque si on est, par exemple, si on est prolo, qu'on est salarié de base, etc., etc., on veut être reconnu en tant que dominé, même si et on produit des textes pour dire qu'on est dominé, qu'on est exploité, même si effectivement il y a des bourgeois qui vont considérer que chacun fait son travail et puis après en fonction de son mérite et de ses diplômes, on reçoit naturellement un salaire différent ou des profits, etc. etc. Et puis après, pour finir là-dessus, et je pense que c'est quelque chose de très important, surtout dans le cadre d'une émission comme la nôtre qui est un peu à la croisée un peu des courants un peu libertaires et des courants marxiens, c'est effectivement la question de cette soi-disant priorité stratégique de l'anticapitalisme qui remet en cause la nécessité d'un combat immédiat contre le patriarcat. Bon, logique, parce que finalement, une partie des anarchistes sont des hommes et du coup, ils n'ont pas forcément envie de se remettre en cause. Et qui du coup remet à la limite la question de l'égalité, soit la proclame qu'elle est déjà là de fait. Donc d'une certaine manière, c'est ce qu'on pourrait dire une forme d'aveuglement, d'une certaine manière, à des inégalités réelles. On dit qu'elles n'existent pas, un petit peu comme François Hollande qui a voulu supprimer de la Constitution
les races. Ouais, la référence aux races, ouais.
C'est ça. Comme si on supprimait le racisme en disant il n'y a pas de race. Comme si la société française était moins raciste que la société américaine juste parce qu'il n'y avait pas de statistiques ethniques. Bon, voilà, évidemment, on sait que c'est une illusion complète quand on voit les violences policières, la discrimination au logement, à l'emploi et tout ça. Et c'est exactement la même chose, du coup, pour les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie nécessité de ne pas remettre l'égalité de genre ou même l'abolition des genres, hein, comme le propose Christine Delphi, l'abolition de ces identités de dominants et de dominés qui vont de pair avec toute une série d'oppositions, passifs, actifs, la force, la faiblesse, la douceur, le courage, etc. etc. Toutes des choses qui en fait sont en soi des valeurs qui devraient nous dégoûter quand même en tant qu'anarchistes. Qu'il ne faut pas remettre ça, évidemment, au lendemain d'une révolution, mais qu'il faut mener peut-être ces révolutions de manière parallèle. Évidemment, c'est des révolutions, la révolution entre guillemets anticapitaliste, ou la révolution antiraciste, ou la révolution antipatriarcale, qui évidemment arrivent sur certains points de tension, par exemple sur la question, ça peut être la question des alliances, la question des priorités, etc. etc. Mais enfin, clairement, il faut arrêter avec un modèle unidimensionnel de la révolution, où il y a un courant, où il faut l'unité. Et je pense que les anarchistes devraient particulièrement le comprendre précisément parce qu'ils ont été écrasés tout au long de l'histoire au nom précisément de cette unité nécessaire de la gauche. C'est-à-dire, si on prend le cas de la Révolution espagnole, qui est la plus grande révolution anarchiste, les anarchistes ont précisément été écrasés au nom de la priorité, c'est le combat antifascisme, c'est pas la révolution sociale. Et ben aujourd'hui, quand on entend dire la priorité, c'est le combat anticapitaliste, et pas la lutte contre l'inégalité de genre, la domination masculine, bah, il faudrait peut-être qu'on se souvienne effectivement que ceux qui ont écrasé les anarchistes historiquement ont utilisé le même type d'argument de réalisme, de priorité stratégique, etc. Et que, en tant qu'anarchiste, tout ça, ça devrait quand même nous faire bondir.
Et puis, enfin, je pense qu'il y a un dernier enjeu qui peut expliquer l'anarcho-sexisme, c'est-à-dire le fait que des hommes anarchistes soient totalement réfractaires au féminisme et se complaisent dans leur sexisme. C'est le fait qu'en fait, pour les anarchistes, même si ces luttes peuvent être brutales et très dures, les anarchistes ont souvent l'habitude de lutter contre des ennemis qui sont à l'extérieur de la communauté anarchiste. Donc, évidemment, on lutte contre le patron. Généralement, le patron, il n'est pas camarade dans notre groupe d'affinité ou dans notre fédération, dans notre comité. On lutte contre les flics. Bon, les flics qui sont infiltrés, on ne sait pas qu'ils sont infiltrés, donc on ne sait pas que c'est des flics. Mais après, c'est les flics contre qui on lutte, c'est les flics qui sont à l'extérieur de notre communauté. Comme les milieux anarchistes en France et au Québec sont quand même, pour ce que j'en comprends, relativement blancs, par exemple, ben, la question du racisme, c'est quelque chose qui nous interpelle, mais... c'est pas rejoué à l'intérieur de notre propre communauté. Mais là, au niveau des hommes et des femmes, ben en fait, il y a des femmes et il y a des féministes dans les réseaux anarchistes. Et donc là, elles amènent la contradiction, elles amènent le conflit à l'intérieur même de nos milieux. Et donc ça, évidemment, c'est embêtant pour les hommes. Et donc, une façon de réagir, c'est de dire, ben, vous êtes des emmerdeuses et vous nous faites perdre notre temps. Et c'est pas ça la priorité, mais c'est parce qu'elles sont avec nous. Et là, ça, c'est plus compliqué pour les camarades anarchistes, parce que là, c'est pas un face-à-face, c'est dans l'entre-soi qu'il y a ce conflit. Et donc là, ce qui se rejoue, parce que quand même, généralement, je pense que tendanciellement, dans plusieurs organisations anarchistes, les hommes sont quand même majoritaires, ils ont souvent plus d'influence, ben, c'est ce qu'on appelle en Amérique du Nord le phénomène du boys club, c'est-à-dire le club de mecs, quoi. Et ça a été très, très bien documenté dans beaucoup de cas d'agression sexuelle où, en fait, il y a une coalition autour de l'homme agresseur, de ses camarades de lutte, qui sont aussi ses amis, souvent, peut-être ses colocs, peut-être des gens avec qui ils sont allés à la fac ou je sais pas, et qui sont incapables de dénouer ce lien amical. Et le lien amical et de camaraderie entre hommes est beaucoup plus fort, en fait, que l'attaque. L'attaque, en fait, c'est une attaque de défense de féministes, par exemple, qui disent « Oui, mais lui, c'est un agresseur, il faut le dégager de notre milieu. » Et là, il y a comme vraiment une crispation autour de ça. Et ça, c'est vraiment un phénomène typique de Boys Club. Et tu as probablement été témoin de ce genre de dynamique. Mais généralement, c'est les féministes, dont la femme agressée, qui finissent par quitter le milieu, ce qui est quand même un truc de fou, avec vraiment des procès d'intention. Moi, j'ai honnêtement, dans tout le monde, je commence à être vieux, là. J'ai 20-30 ans d'expérience dans les milieux militants. J'ai jamais vu des militants anarchistes mettre en doute des camarades qui disaient qu'ils avaient été brutalisés par la police. Là, il n'y a personne qui disait « Ah, ça doit être une fausse allégation, en fait, t'as inventé ton truc, peut-être que t'avais trop bu, donc en fait, tu t'as trébuché sur la matraque, puis en fait, il t'a pas... » Ben non, quand quelqu'un nous dit qu'il a été brutalisé par la police, on le croit d'office, là. Il n'y a jamais aucun débat ou aucun doute que cette personne-là essaye de manipuler quelque chose. Mais c'est bizarre, quand c'est une camarade femme qui est agressée par un camarade homme, c'est bizarre à quel point, là, il y a tout un processus de mise en doute, il faut qu'elle amène des preuves, de la présomption d'innocence, de tout un truc qui n'est pas proposé anarchiste. D'ailleurs, c'est le même type d'argument qu'on retrouve dans tous les autres milieux quand il y a une question d'agression sexuelle. Et là, c'est vraiment le phénomène du boys club. C'est les gars qui s'aiment ensemble et ça, c'est vraiment une logique de solidarité de classe, en fait.
Oui, c'est ça. C'est important de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine manière, alors même que ces mecs anarchistes vont dire « Non, mais priorité au combat de classe ou à la lutte », d'une certaine manière, j'ai envie de dire, on pourrait leur retourner l'argument, c'est eux qui divisent les luttes, en réalité, puisque, en faisant en sorte que les personnes non blanches et que les femmes... et que éventuellement les homos ou éventuellement les trans, enfin ce qui fait quand même un paquet de monde, c'est-à-dire la majorité de l'humanité, ne se sentent pas à l'aise dans ces milieux qui ressemblent quand même, à part peut-être sur la question de la classe, finalement pas mal au groupe dominant de la société. Donc c'est quand même qui questionne un petit peu quand même la question quand on est dans un milieu anarchiste, le fait qu'il peut y avoir que des personnes qui appartiennent au groupe dominant de la société qui fassent partie de ces groupes, ça questionne. Et d'une certaine manière, ce sont effectivement ces hommes anarchistes blancs, etc., qui divisent les luttes tout simplement en refusant de prendre en considération ces dominations, en refusant d'exclure les personnes qui ont commis des actes de violence, que ce soit des actes homophobes, des actes sexistes, des actes racistes, etc., etc. Pour le coup, il y en a, il n'y a pas besoin de les chercher bien loin. Ça contribue à une division. Et après, ces mêmes hommes anarchistes vont aller parler, vont aller pleurer sur l'émiettement des luttes, les questions d'identité qui reviennent et tout ça. Mais si on regarde bien la trajectoire de la plupart des féministes, et même les féministes historiques des années 70, à la base, elles viennent toutes du combat anticapitaliste.
Absolument.
Ou elles viennent toutes du combat anarchiste. Christine Delphi, ou des anarcha-féministes, Emma Goldman et tout ça, on en parlera peut-être.
Aux États-Unis, c'est la même chose.
Voilà.
Et en fait, elles se sont retrouvées en non-mixité, parce qu'elles ont été dégoûtées de ce qu'elles ont vécu en mixité dans les réseaux d'extrême-gauche, contre la guerre du Vietnam, les milieux anticapitalistes, et ce qu'on appelait le mouvement de la jeunesse à l'époque. Et en fait, la non-mixité, elle n'est pas pour ces féministes-là en amont, mais elle est en aval, après une expérience dans les milieux mixtes, où elles ont été dégoûtées, elles ont été agressées, elles ont été ignorées, elles ont été méprisées, etc. Et de là, en fait, elles sortent de ces milieux-là. Elles vont pas très loin, hein. Ils continuent à avoir des alliances et des coalitions et tout ça. Là, c'est pas du séparatisme. Ça pourrait être légitime d'avoir le séparatisme, mais c'est même pas ça qu'elles font. Elles s'en vont en mixité à cause de leur expérience. Et elles le disent aux États-Unis, c'est très, très clair. En France, c'est très, très clair. Absolument. Et donc, comme tu dis, c'est vraiment les hommes dans leur backlash et dans leur incapacité ou dans leur refus, en fait, de prendre en considération les enjeux femmes et en plus en agressant ces femmes de diverses manières qui ont eu pour effet de fragmenter la lutte, tout à fait.
Oui, et c'est un vrai problème parce que du coup, aujourd'hui, ces dynamiques se rejouent à l'infini. Dans les années 70, il s'est passé la même question, c'est-à-dire une espèce de fragmentation progressive. On a l'impression que ah, c'est une fragmentation progressive, c'est parce que oh, tout le monde commence à s'intéresser à sa petite identité et tout ça. On était dans le grand mouvement de mai 68, et puis après, oh, bah, il y a le front homosexuel d'action révolutionnaire, les MLF, ça commence à partir, et puis après, boum, ça s'émiette et ça finit en réduit en cendres. Mais en vrai, c'est parce que ces questions-là, elles n'ont pas été traitées, et que le milieu des années 60, les anarchistes et les autres des années 70 étaient majoritairement des milieux très sexistes et tout ça, et ça vaut d'ailleurs pour tous les milieux prostituationnistes, les milieux marxistes, etc., etc. On rejoue encore une fois la même tragédie, hein, pour reprendre l'idée de Marx. L'histoire, là, pour le coup, se répète, pas comme une farce, hein, malheureusement, c'est tragique pour le coup, mais ça se rejoue, et on a encore, on va encore aller pleurer sur le fait que les luttes s'émiettent, il n'y a plus des grands mouvements, les gens préfèrent se consacrer au combat antiraciste, au combat féministe et tout ça, mais c'est parce que ces questions-là ne sont pas prises en compte. De toute façon, je pense que c'est bien qu'elles soient prises en compte aussi de manière très spécifique et tout ça dans des groupes, absolument. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout prises en compte, ou pas suffisamment. Il y a des organisations anarchistes qui l'ont un peu plus prise en compte. En France, la CGA l'a plus prise en compte que d'autres organisations, etc., etc. Mais il y a quand même effectivement un problème et qui va faire que on pourrait dire que c'est la même chose d'ailleurs sur la question de l'antiracisme, où là c'est peut-être limite encore un peu plus crispé que sur la question des femmes en France, mais il y a vraiment un problème. Et après systématiquement, par ce déni de se remettre en cause en tant que dominant, on va utiliser des arguments finalement qui sont, et tu le dis bien dans ton article, qui sont finalement des arguments principalement des rationalisations, mais qui sont des arguments qui sont utilisés par tout le monde. La critique de la non-mixité, c'est utilisé par l'extrême droite aussi, en disant c'est une forme de séparatisme, c'est du sexisme anti-homme et tout ça. Alors là, par contre, ça pose pas de problème d'utiliser les mêmes arguments que l'extrême droite, que l'Union européenne soit contre les discriminations. Et en vrai, bon, est-ce que l'Union européenne et Macron sont vraiment
dans les discriminations? Oui,
voilà, c'est exactement. Ça. Et donc, ça, bon, c'est évidemment, c'est une espèce d'alibi, hein, évidemment, c'est comme. Quand on parle de l'antiracisme, on brandit l'épouvantail du Parti des Indigènes de la République, comme si tout l'antiracisme se résumait à un truc effectivement assez essentialiste et identitaire, pour, encore une fois, refuser de prendre en considération ce genre de questions. Et évidemment, tout ça, bah oui, ça nuit aux mouvements sociaux, ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui... alors déjà, qui ont du mal à rentrer dans les mouvements anarchistes, dans les milieux anarchistes, et qui sortent cassées des milieux anarchistes, sauf dans les quelques groupes qu'elles arrivent à constituer, où là, elles sont en majorité et tout ça. Bon, moi, je pense par exemple à la CGA de Montpellier, où là, effectivement, il y a plus une relative majorité de femmes. Effectivement, le féminisme est hyper ancré dedans et tout ça. Mais il y a beaucoup de groupes où là, pour le coup, ça va pas le faire. Il va y avoir une majorité masculine. Et il va y avoir des mécanismes, effectivement, une agression d'une femme par un camarade anarchiste, effectivement une forme de solidarité masculine. On voit bien que ces mécanismes se répètent et qu'il y a une urgence aujourd'hui à avoir un anarchisme pro-féministe et à ce qu'il y ait une réflexion individuelle et collective, notamment des mecs, des femmes aussi, mais ça se passe peut-être par d'autres voies, mais des mecs anarchistes, il y a un vrai travail individuel et collectif à faire sur soi pour arrêter de reproduire une situation de domination qui est évidente, qui est, enfin, je veux dire, quand on parle d'agression sexuelle, d'inégalité des tâches ménagères, on coupe la parole, d'insultes sexistes, bon, on peut faire une liste très longue. Oui, évidemment qu'il y a une domination masculine dans les milieux anarchistes, et évidemment qu'il faut la combattre. Sinon, on se proclame anarcho-masculiniste, ou alors on va, je veux pas être méchant, mais on va traîner du côté du cercle Proudhon, on va aller faire des discussions avec Michel Onfray et Alain de Benoist, où là, pour le coup, eux aussi se réclament de Proudhon, aussi du Proudhon antisémite et misogyne, bon, puisqu'on a envie de se réclamer de celui-là, ça on en parlera plus dans la deuxième partie de l'émission. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, et surtout de la part de gens qui prétendent vouloir se distinguer de l'extrême droite, alors que le féminisme, c'est libéral, la non-mixité, c'est du sexisme anti-homme et tout ça, c'est un discours qui en parle le plus à un niveau médiatique, c'est Zemmour, Alain Soral, Alain de Benoist, bon, ben voilà, il y a un problème quand on ressort ces mêmes arguments. Et je pense que ça devrait quand même un peu questionner, quoi.
Sur la non-mixité, il y a dans le documentaire Ouvrir la voie d'Amandine Gay, qui est un documentaire qui a fait pas mal parler de lui, qui est un documentaire où Amandine Gay, la réalisatrice, qui est une femme noire française, en fait, donne la parole à des femmes noires qui parlent de leur expérience de femmes noires en France. Il y en a qui sont nées en France, il y en a qui sont nées à l'extérieur de la France. Il y a un passage où, en fait, plusieurs de ces femmes noires disent « Ah, c'est bizarre, quand des noirs sont ensemble, c'est communautaire et c'est la non-mixité, mais des blancs qui s'organisent ensemble ou qui même font la fête ensemble ou vivent ensemble, on pense jamais que c'est communautaire et que c'est de la non-mixité. Or, les blancs se retrouvent souvent ensemble en amitié pour des bouffes, en couple, dans leurs activités militantes, c'est souvent juste des blancs. Mais là, on ne dit pas que c'est communautaire. Donc ça, c'est Peggy McIntosh, entre autres, qui a travaillé vraiment sur la question du privilège blanc. Elle dit, ben justement, ça, c'est une forme de privilège. C'est que nous, on se voit pas dans des dynamiques communautaires, dans l'entre-soi, entre blancs, dans la non-mixité, c'est toujours les autres. Et donc, une pratique qui relève de l'hygiène mentale et politique, que moi j'aime bien faire, en fait, c'est que quand je suis dans des assemblées ou dans des réunions militantes, souvent, en fait, j'ai sur un bout de papier, je note les prises de parole hommes, les prises de parole femmes. Et moi, je prends la parole aussi, hein, et puis d'ailleurs, je suis quelqu'un qui prend probablement trop la parole, d'ailleurs, mais... Et donc, c'est presque tout le temps. Et là, je parle des réunions militantes de gauche, extrême gauche, anticapitalistes, etc. Et donc, c'est presque tout le temps, évidemment, les hommes qui parlent plus que les femmes. Après ça, on pourrait même calculer le temps. Tu l'as mentionné tout à l'heure, le temps. Après ça, on pourrait évidemment calculer aussi quel type de prise de parole. Est-ce que c'est un point d'information? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une affirmation, une proposition stratégique, etc.? Et puis aussi sur les réactions critiques envers la non-mixité ou ce qu'on appelle les quotas, c'est intéressant de regarder aussi dans des événements à quel moment, en fait, sur le panel, par exemple, d'intervention, il y a que des hommes, mais que ce n'est pas pensé comme ça, hein, mais il y a que des hommes, il y a 3-4 hommes qui interviennent sur tel sujet, je ne sais pas, la lutte antinucléaire ou ceci, cela, et combien il y a de femmes, et à quel moment il y a juste des femmes, et à quel moment il y a juste des femmes quand le sujet, en plus, n'est pas les femmes ou le féminisme. Et donc là, on réalise qu'en fait, les hommes, on a tellement souvent la parole, que ce soit individuel dans une assemblée ou que ce soit sous forme de panel, et qu'il y a tellement d'occasions où il n'y a presque pas de femmes qui parlent ou pas de femmes qui parlent, mais on n'est pas en train de se dire « Ah ouais, c'est dégueulasse, c'est de la non-mixité, etc. etc. » Mais quand les femmes disent « Oui, mais nous, on aimerait quand même aussi qu'on réfléchisse à ça, donc est-ce qu'on pourrait avoir une réflexion sur les alternances de tours de parole ou une parité sur les panels ?» Ben là, on va leur reprocher d'avoir une approche identitaire ou communautaire, etc. Mais, si on veut quand même surmonter le moral un peu, parce que bon, tout ça c'est déprimant, quand même, il ne faut pas oublier que du côté de l'anarchisme contemporain, il y a quand même, évidemment, il y a quand même un travail pro-féministe radical qui émerge en fait des réseaux anarchistes. Et très souvent, en fait, quand il y a du pro-féministe radical, quand on tombe sur une brochure ou un texte ou des propos, ben en fait, ça vient du milieu anarchiste. Et donc, évidemment, il y a des cas plus célèbres que d'autres. Léo Thiers-Vidal, c'en est un, évidemment. Qui venaient des réseaux anarchistes. Il y a des collectifs comme le collectif anti-masculiniste Île-de-France ou le collectif Stop Masculiniste de Grenoble. Pour ce que j'en comprends, ils devraient s'identifier par eux-mêmes et elles-mêmes, c'est des comités mixtes, mais ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, ils sont très, très, très proches des milieux anarchistes, autonomes. Dans les milieux queer, radicaux, anticapitalistes, où souvent les personnes, en fait, ou les femmes se considèrent à la fois anarchistes et queer radicales ou féministes radicales, etc., ou en tout cas, c'est très perméable, on les retrouve dans les mêmes réseaux. Pour ce que j'en comprends, parmi les personnes qui ont travaillé à la traduction de John Stoltenberg, là, le livre dont tu parlais tout à l'heure, « Refuser d'être un homme », on est plutôt dans les réseaux anarchistes aussi. Donc, en fait, l'anarchisme est aussi sympathique ou en tout cas aussi un espace intellectuel d'analyse, de lutte, etc., qui est aussi favorable à un féministe radical ou à un pro-féministe radical. Donc, tout n'est pas complètement pas noir, parce que c'est une bonne couleur, mais en tout cas, tout n'est pas sombre.
Oui, oui, et ça, c'est effectivement important de le préciser, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'anarchisme, comme n'importe quel milieu militant, est en fait, d'une certaine manière, le reflet, hein, du représentatif de la socialisation de la société actuelle, qui est une société patriarcale de domination masculine. Et donc, effectivement, on va y retrouver, comme dans les autres groupes militants, effectivement, une majorité d'hommes blancs qui vont avoir plutôt tendance à défendre leurs privilèges, etc., etc. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas que des réflexions féministes émergent, que même des hommes deviennent pro-féministes. On peut dire que, d'une certaine manière, cette émission aussi est aussi le produit effectivement de cette logique-là. Et le chemin évidemment on peut arriver à ça dans l'anarchisme de manière relativement logique. À partir du moment où on se dit qu'il faut être contre toutes les formes de domination et de pouvoir, être contre la domination masculine et le patriarcat, finalement ça coule sous le sens. Voilà, et on pourrait même dire qu'il y a d'autres milieux. Je sais pas, moi, quand on est situationniste ou quand on est marxiste, anti-autoritaire, logiquement, ce genre de réflexion devrait aussi s'imposer de lui-même. Et donc, c'est clair que il y a, malgré tout, effectivement, comme tu le rappelles, des dynamiques qui existent aujourd'hui, de plus en plus, malgré tout, hein, même s'ils ne sont pas très nombreux, d'hommes pro-féministes qui existent dans les milieux anarchistes ou dans les milieux proches de l'anarchisme. Et tout ça à la faveur quand même de ce qu'il faut dire, une forme de renouveau hein, quand même des mouvements féministes et pro-féministes aussi au cours des dernières années, qui paraît être porteur de dynamiques assez intéressantes. Et on verra que dans la deuxième partie de cette émission, que le milieu anarchiste a été le théâtre à la fois de cet anarcho-sexisme contemporain, dont finalement il n'est que l'héritier, hein, depuis Pierre-Joseph Proudhon, et puis une certaine forme d'ouvriérisme viril, et d'autre part, en même temps que c'est bien dans le milieu anarchiste ou dans les milieux anti-autoritaires qu'ont émergé des réflexions féministes très intéressantes, et même des formes de réflexions pro-féministes intéressantes. Et finalement, l'anarchisme est à la fois, et il ne faut pas se le cacher, lui aussi porteur hein, de sexisme, etc., etc., lorsque finalement il est en contradiction hein, avec ses propres valeurs et principes un peu abstraits sur la négation de toute forme de domination et de pouvoir, mais en même temps, il porte aussi, si on prend ses principes au pied de la lettre, porteur effectivement d'une réflexion et de pratique qui mène, disons, à l'abolition du patriarcat, de la domination de genre, de la domination masculine, et même, on pourrait aller dire, jusqu'aux identités qui ont été formées par ces dominations, c'est-à-dire la masculinité et la féminité, avec tout ce qu'ils ont d'aliénant, hein, il faut bien le reconnaître, dans un cas comme dans l'autre, même si, dans un cas, c'est non seulement aliénant, mais en plus, c'est opprimant. Mais enfin, en tout cas, c'était important de montrer effectivement toute cette complexité, toute cette ambivalence finalement de l'anarchisme au niveau des pratiques et de la pensée dans cette première partie d'émission. Et après une pause musicale, on va passer sur une partie plus historique, montrer comment est-ce que finalement, évidemment, on n'est pas simplement juste les héritiers aujourd'hui de l'histoire de l'anarchisme et de ces contradictions entre un pan plus féministe et pro-féministe et un pan plus masculiniste et sexiste, mais malgré tout que c'est intéressant de relire l'histoire de l'anarchisme à l'aune de cette question, puisque trop souvent, et on pourrait prendre l'exemple d'un documentaire qui a fait date hein, sur Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, qui a documentaire effectivement très intéressant qui a permis de populariser énormément l'anarchisme, mais où cette question reste quand même globalement absente. Et là, très souvent, dans les grandes histoires de l'anarchisme, qui sont souvent d'ailleurs écrites par des hommes, d'ailleurs la majorité du temps qui sont blancs, ces questions-là passent quand même relativement à la trappe ou sont l'objet d'une sous-partie où on évacue ça assez vite. Alors que, par exemple, toi, tu le mets bien dans ton article « Hommes anarchistes face au féminisme », le fait que Proudhon soit quelqu'un de misogyne, puis en plus antisémite, c'est quand même quelque chose de fondamental, et il faut le dire, il y a une nécessité de se replonger dans l'histoire de l'anarchisme, aussi à travers ce prisme. Voilà, du coup, on va passer une pause musicale.
La misogynie, c'est intéressant. On ne sait pas ce que c'est que la misogynie, il faut être misogyne. Il faut aimer les femmes, mais être misogyne, savoir. Alors mettre les femmes à leur place, justement, sur un trône, ça les adorait, mais quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles vous foutent la paix. La femme, c'est la plus grande artiste, parce qu'elle fait un objet extraordinaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme, et pas de femme vraiment artiste. Pourquoi? Parce que le génie de la femme, c'est faire, c'est extraordinaire. Des fois, je me dis, je vais faire un enfant, il va sortir de moi. C'est extraordinaire. Je comprends pas les femmes qui n'ont pas le sens maternel, qui espèce de trucs qui se font. C'était une chose énorme, ça. Non, qu'elles en restent là, vous comprenez. Du coup, tout ne l'emmerde pas, l'artiste. Emmerde, vous comprenez. Les femmes. Je hais certains types de femmes. En tous les cas, les femmes cultivées. De toute façon, ils ne rentrent plus chez moi. Pas de femmes cultivées. L'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. Ça, à tout prix. Vous comprenez. Je dis pas ça, on ne m'enlève pas. Dieu sait si j'aime la femme, je l'admire. Femme, c'est la mère. Voilà.
Léo Ferré, interview sur Paris Première.
Tout est rose à ma naissance, commence un ultimatum. Au bénéfice de l'homme, je suis l'objet ou la chose. On me dit faible et coquette, mais toujours un peu conne. Juste bonne à faire la bonne, dépoussiérer la moquette. Je suis rapidement la salope, je n'ai droit qu'aux amourettes. Puis viendra le mariage comme un miroir aux alouettes. J'étais l'hystérique et la folle, la sœur de mes lubies. La majorité de mes viols seront tombés dans l'oubli. Je suis la pub et le produit, le physique et le profit. Sur chacune de vos affiches, de la pute j'ai le profit. J'ai pourtant 100 000 ans de lutte, j'ai toujours tenu debout. Je suis mort sous les coups à la dernière de mes disputes. C'est moi que l'on persécute, à votre bon vouloir. J'écris le deuxième sexe depuis Simone de Beauvoir. Pour tes questions de pouvoir, de contraintes liées aux gens, un boulet relié aux gens, mais pas le temps de s'émouvoir. Sans épanouissement comme une fleur déracinée. Mon oppression se multiplie quand je suis déracisé. Au sein de mon foyer, l'extorsion de mon travail. Féministes sont mes cahiers, j'ai lu l'ennemi principal. La domination masculine, DSK contre Diallo. Le phallocrate est un salaud patriarcal et la machine. Malgré les agressions, je ne fuis pas l'affrontement. J'obtiendrai la contraception et le droit à l'avortement. On m'instrumentalise, mais de manière éphémère. Ni putain, ni soumise, ni bas d'inter, ni l'éphémère. On cherche à m'embourgeoiser, me vider de mes colères. On me tolère à la télé, sauf quand je suis prolétaire. Servile ou asservi, sans fléchir, j'y réfléchis. Caliban et la sorcière de Sylvia Federici. À l'origine, suis-je la faute et le péché? Disposer de mon corps, vous ne pourrez m'en empêcher. Le misogyne se fabrique, je ne suis pas de la viande. Le sexisme est une mine, j'y ai perdu les deux jambes. J'opte pour la convergence, comme Angela Davis. Le féminisme des blanches, c'est celui qui nous divise. L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je suis le strass, sans les paillettes et la buée. Je milite en faveur du droit des prostituées. Pro-sexe et je l'affirme, libre de mes choix. J'ai le majeur pour expliquer ce que je fais de mes 10 doigts. Sur le marché de l'emploi, me noie dans la précarité. Mon salaire aussi témoigne de mon infériorité. Ils m'ont parlé de parité. Je connais ces messieurs. Sur l'égalité pensée que je fermerai mes yeux. Et dans leur monde à eux, je ne sers qu'à leur bonheur. Comme chacune de mes sœurs, on m'a capturé de bonheur.
La domination masculine.
Le deuxième sexe. Conditionnement de l'image traditionnelle de la femme. On ne naît pas femme, on le devient.
Le problème des femmes, c'est un problème secondaire.
Il serait dans la nature des choses que la femme soit soumise.
On est loin d'être dans un principe d'égalité.
Je ne suis la poupée de personne. Je me fous de mon charme, condition sine qua non. Ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale. Capturé de bonheur dans un monde masculin. Pour ton bonheur, devenir ta boniche ou ta putain. Moi je souris à la vie, au milieu des ténèbres. Toujours frêle et soumise, je suis le sexe faible.